1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Bonjour chers auditeurs, nous sommes ensemble pour parler de protestantisme et de laïcité. Et pour aborder ce sujet, nous recevons Jean-Paul Willem. Bonjour Jean-Paul Willem.
Bonjour.
Docteur en sciences religieuses, vous êtes aussi docteur en sociologie, directeur d'études émérites à l'école pratique des hautes études et sociologue des protestantismes. Ensemble, nous allons parler des rapports qu'entretiennent protestantisme et laïcité et nous le ferons au travers de 5 émissions. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler du protestantisme comme sécularisation du christianisme. De bien grands mots, mais je rassure nos auditeurs, nous allons plonger dans ce mode-là de manière à leur donner quelques repères. Et d'abord, une première question. Est-ce qu'il existe une définition protestante de la laïcité, Jean-Paul Willem?
Il y a tout d'abord une approche générale de la laïcité qui consiste en la séparation, l'autonomie du politique, des autorités civiles par rapport à toute référence religieuse, donc qui a donné lieu à la séparation des églises et de l'État, mais qui a donné lieu également à la laïcité de l'institution scolaire. Mais les protestants sont très attachés à la laïcité, particulièrement en France. Et ils sont attachés également à une prise en compte du fait religieux. Donc c'est un petit peu la sensibilité protestante, oui, à la laïcité, à la séparation des églises et de l'État, à la claire distinction entre le temporel et le spirituel, à l'autonomie du politique par rapport au pouvoir religieux, le protestantisme représentant une décléricalisation du christianisme à partir de l'affirmation du sacerdoce universel. Et là, j'aimerais quand même rappeler ce beau texte de Martin Luther en 1520, « Tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'État ecclésiastique ». Il résulte qu'entre laïcs, prêtres, princes, évêques et, comme ils disent, entre le clergé et le siècle, il n'existe au fond aucune autre différence si ce n'est celle qui provient de la fonction et non pas de l'État. Et Martin Luther ajoutait en 1520, un savetier, un forgeron, un paysan ont chacun la tâche et la fonction de leur métier et pourtant tous sont également consacrés prêtres et évêques. Autrement dit, Luther promeut à l'État ecclésiastique tous les laïcs et c'est une façon intéressant de promouvoir la laïcité, c'est l'importance accordée aux laïcs, au peuple, au laos, dans la vie chrétienne et dans la vie des églises.
Qu'est-ce qu'on peut dire qui, dans le protestantisme, a favorisé cette vision vraiment particulière de la laïcité ?
Il y a cette affirmation donc très importante du sacerdoce universel des croyants. Il y a aussi le fait que l'organisation ecclésiastique elle-même des protestants, en particulier à travers le régime presbytérien synodal, la façon dont les protestants fonctionnaient, si on peut dire, en église, avec des assemblées dans lesquelles on votait. Et Élisabeth Labrousse avait bien remarqué qu'au XVIIe siècle, c'était le système ecclésiastique même des huguenots français qui nourrissait la méfiance à leur endroit. Les huguenots avaient beau protester de leur attachement à l'absolutisme, leurs ennemis soulignaient avec horreur les éléments républicains de l'organisation de leurs églises. Et donc, il y a une portée laïcisatrice de l'organisation même des églises protestantes avec ces assemblées dans lesquelles on vote et la prise en compte des laïcs dans l'église.
Il y a le système dont vous parlez, mais aussi la pluralité des églises protestantes qui portent en elles-mêmes un germe, si on peut dire, de laïcité, puisqu'il faut vivre ensemble et s'accepter les uns les autres.
Absolument, parce que ça fait partie de l'ADN du protestantisme, la distinction entre églises visibles et églises invisibles. Toutes les églises visibles, historiques, sont des institutions relatives dont on peut juger la fidélité en référence à l'autorité de la Bible, sola scriptura. Et donc, il y a eu une désacralisation de l'institution ecclésiastique et désacralisation du personnage du clerc sous la forme du pasteur. Donc, le protestantisme représente une décléricalisation du christianisme et la promotion des laïcs. Alors, cette désacralisation des pouvoirs religieux, des magistères religieux, ne pouvait qu'avoir également une incidence sur le pouvoir politique. Si on désacralisait l'autorité religieuse, pourquoi ne pas désacraliser aussi l'autorité politique ? Et j'aimerais citer l'écrivain puritain anglais John Milton, qui affirmera que la Bible met des limites à la soumission politique et fait du peuple la source de tout pouvoir. La désacralisation de l'autorité religieuse a favorisé la désacralisation de l'autorité politique.
Il y a aussi un investissement dans la sphère sociale avec une dynamique associative très forte qui favorise aussi peut-être cette idée de la laïcité toute protestante.
Bien entendu, parce que la vie chrétienne et l'excellence de la vie chrétienne dans la façon protestante de vivre et d'assumer le christianisme, c'est non pas le retrait du monde, mais l'engagement et l'action dans le monde. Et donc, plutôt que de cultiver la perfection chrétienne à l'abri des murs d'un monastère en se retirant du monde, la logique protestante, c'est l'engagement dans la cité, l'engagement dans le monde, et donc séparation des autorités civiles et religieuses, insistance forte sur cette autonomie respective, mais volonté de témoigner du christianisme, de l'évangile dans la cité. Et le protestantisme français s'est remarquablement manifesté à travers un dynamisme associatif dans le domaine éducatif, dans le domaine caritatif, dans le domaine de ce qu'on appelle les œuvres, un associationnisme protestant presque disproportionné par rapport à l'importance numérique des protestants en France. Dans le domaine de l'action sociale en particulier, avec le souci des pauvres, le souci des handicapés, toute l'œuvre de l'Armée du Salut, l'œuvre des grands établissements comme les asiles John Bost ou le Zonenhof en Alsace, et toutes sortes d'œuvres éducatives, sociales, qui ont manifesté un fort dynamisme de l'engagement chrétien protestant dans la cité.
Alors nous avons évoqué, Jean-Paul Willem, ces idées, ces valeurs qui sont protestantes, sociales, humaines, valeurs aussi d'éducation. Quelles personnalités se sont investies dans le débat pour que la laïcité investisse tous ces domaines tout en préservant une saveur, une couleur quand même religieuse ?
Alors là, j'aimerais effectivement mentionner les contributions protestantes à l'émergence de l'idée de tolérance civile, d'acceptation de la pluralité religieuse. Dès le XVIe siècle, en fin de compte, la réforme radicale sous la forme de l'anabaptisme pacifique, en particulier ce qu'on a appelé les Ménonites, du nom de Menno Simons. Je voudrais citer Menno Simons, donc au XVIe siècle, je cite, « Si les gouvernements connaissaient bien le Christ et son royaume, ils seraient, de mon avis, ils préféraient choisir la mort plutôt que de vouloir régler les affaires spirituelles avec leur glaive et leur pouvoir temporel. Les affaires spirituelles ne sont pas soumises à l'autorité de l'homme, elles relèvent seulement du Dieu Tout-Puissant. » Je voudrais aussi souligner l'apport du baptiste Roger Williams qui, un siècle avant les révolutions américaines et françaises, défendait les principes de la liberté de conscience et de culte et la neutralité religieuse de l'État pour des raisons théologiques. Et c'est ça un apport du protestantisme, c'est que les protestants ont défendu pour des raisons théologiques la laïcité de l'État, la neutralité de l'État et l'acceptation de la pluralité religieuse et l'acceptation de la liberté de ne pas avoir de religion. Et bien entendu, il faut également souligner l'apport du philosophe protestant Pierre Bayle, qui a défendu la tolérance civile et la liberté de conscience, et l'anglican John Locke avec son traité sur la tolérance, autant d'auteurs, de penseurs qui ont valorisé la tolérance civile et donc l'amorce de la laïcité à travers des raisons philosophiques et religieuses.
On peut souligner à cette occasion que ça tranche avec l'image qu'on a peut-être habituellement des évangéliques, plutôt conservateurs et plutôt proches de la sphère politique, alors que là, les Ménonites se sont positionnés complètement différemment.
Oui, ça c'est intéressant à soulever parce que la sensibilité protestante évangélique, donc dès le XVIe siècle, avec l'exemple des anabaptistes pacifiques, ont promu la séparation des églises et de l'État et donc considéré l'église, et ça anticipe le XXIe siècle, comme une des minorités croyantes très engagées dans leur foi, mais acceptant le fait que leur foi, leur témoignage s'inscrivait dans la cité, dans la société qui, elle, était ce qu'elle était. Mais il y a une critique des pouvoirs religieux dans cette sensibilité.
Et juste en quelques mots pour terminer, par quelle porte on peut dire que la laïcité entre concrètement dans la société ?
Ben, la laïcité a d'abord été la laïcité de l'école. Et donc, le fait que l'école n'était plus sous autorité religieuse, mais une école publique ouverte à tous. Et on le verra dans une prochaine émission. La laïcité fut d'abord scolaire, la promotion de l'école publique ouverte à tous, mais on aura l'occasion d'en reparler.
Voilà, vous l'avez dit, nous développerons cet aspect-là dans notre prochaine émission. Merci Jean-Paul Willem d'avoir été avec nous.
Merci.
Au revoir.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017. Vivre la fraternité.